Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 29 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Les titres pour commencer, en RDC, 12 civils tués en deux jours par des rebelles ADF dans l'Est. Appel de Washington à la RDC pour protéger les casques bleus visés par de violentes manifestations. En Guinée, des manifestations contre la junte paralysent Conakry et font un mort, selon les organisateurs. Le président de la CDAO assure avoir convaincu la junte guinéenne de réduire la transition à 2 ans. Malgré les tensions autour de Taïwan, les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping envisagent une rencontre en personne. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 12 civils ont donc été tués en deux jours dans des attaques attribuées aux rebelles ADF contre 2 villages. Davantage de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le docteur Jérôme Mouniambété, médecin directeur de l'hôpital d'Oïcha, a confirmé que son établissement a reçu 5 corps mercredi et 7 hier jeudi, dont 4 femmes. La plupart des victimes ont été tuées à la machette, a-t-il détaillé, et quelques-unes par balle. Jusqu'à novembre dernier, la cité d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, était l'une des principales cibles des attaques des ADF dans la région. Le rythme des attaques avait sensiblement baissé après le lancement des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises visant à neutraliser les ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous état de siège. Présenté par le groupe État islamique comme sa branche en Afrique centrale, les rebelles ADF sont à l'origine des musulmans ougandais venus dans l'est de la RDC après la chute du dictateur ougandais Idi Amin Dada. Ils sont maintenant accusés d'avoir massacré des milliers de civils et commis des attentats en Ouganda.
Par ailleurs, les États-Unis ont exhorté la RDC hier à protéger les forces de maintien de la paix de l'ONU visées par de larges manifestations. Leur bilan s'est élevé à au moins 15 morts mercredi soir, dont 3 casques bleus, 2 Indiens et 1 Marocain, et 60 de blessés selon les autorités, Jean-Roger Bion.
Les manifestants accusent les casques bleus d'être inefficaces contre la centaine de groupes armés responsables du chaos dans lequel sont plongées des provinces de l'est du pays. La mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, joue un rôle essentiel de soutien à la paix et à la sécurité, protégeant les civils et facilitant la livraison de l'aide humanitaire, a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État américain Ned Price. Nous appelons les autorités locales et nationales de RDC à assurer la protection des membres des sites de la MONUSCO et aux manifestants à exprimer leur opinion calmement, a-t-il ajouté. Les États-Unis, premier contributeur financier des casques bleus, ont salué le déploiement par Kinshasa mercredi de policiers et militaires congolais pour assurer le calme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait condamné mercredi dans les termes les plus forts ces attaques et rappeler que viser des soldats chargés du maintien de la paix peut constituer un crime de guerre.
En Guinée, des manifestations contre la junte au pouvoir depuis septembre 2021 ont paralysé jeudi la capitale, faisant 1 mort selon les organisateurs de ce mouvement de rue. Les autorités n'ont pas confirmé ce décès. Les manifestations ont eu lieu malgré l'interdiction des autorités et un fort dispositif policier, Rosine Munezero.
Dans plusieurs quartiers bastions de l'opposition, des heurts ont éclaté entre de jeunes manifestants et les forces de l'ordre. La police a tiré du gaz lacrymogène pour disperser des petits groupes qui lançaient des pierres. Cette manifestation à l'initiative du Front National pour la défense de la Constitution, une coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile visait à dénoncer la gestion unilatérale de la transition par la junte, ainsi que son refus d'ouvrir un cadre de dialogue crédible pour définir les termes de la transition. Le FNDC avait déjà appelé à manifester le 23 juin, passant outre l'interdiction de la junte. 3 leaders de ce mouvement ont été interpellés le 5 juillet, avant d'être relaxés à l'issue d'un procès où ils étaient jugés pour outrage à magistrat.
Ajoutons que la CEDEAO affirme avoir convaincu la junte dirigée par le colonel Mamadou Doumbouya de réduire la transition de 3 à 2 ans. J'étais à Conakry pour faire comprendre à la junte militaire la décision du sommet des chefs d'État que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Eux avaient proposé 36 mois, mais on a réussi à les convaincre. C'est ce qu'a dit le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, lors d'une conférence de presse conjointe à Bissau avec son homologue français Emmanuel Macron. Mais le ministre guinéen Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement de transition, a indiqué à l'AFP que ni le gouvernement ni la présidence ne confirment cette information sur la durée de la transition en Guinée. Lors de cette conférence de presse hier à Bissau, M. Macron a plaidé pour un renforcement des synergies politiques entre la France et ses alliés d'Afrique centrale et de l'Ouest afin de poursuivre ensemble la lutte contre les groupes islamistes armés dans la région après le retrait des forces militaires françaises du Mali. Bissau était la dernière étape d'une tournée qui l'a conduit aussi au Cameroun et au Bénin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping se sont mis d'accord hier sur le principe d'une rencontre en personne lors d'un entretien téléphonique de plus de 2 heures, malgré les tensions autour de Taïwan, tensions qui ont conduit le président chinois, selon Chine Nouvelle, à avertir M. Biden de ne pas jouer avec le feu. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler, a prévenu le président chinois. Pékin menace de conséquences si la chef des députés américains, Nancy Pelosi, mène à bien son projet de visite à Taïwan. J'espère que la partie américaine comprend parfaitement cela, a ajouté Xi Jinping, cité par l'agence Chine Nouvelle. D'après un communiqué de la Maison-Blanche, Joe Biden a affirmé que la position des États-Unis sur Taïwan n'a pas changé et Washington s'oppose fermement aux efforts unilatéraux pour modifier le statut ou menacer la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Même si des responsables américains se rendent souvent à Taïwan, Pékin considère qu'un voyage de Mme Pelosi, troisième personnage de l'État américain, serait une provocation majeure. Selon la Maison-Blanche, l'objectif de Biden est d'établir des garde-fous pour les deux superpuissances afin d'éviter un conflit ouvert en dépit de leurs différends et de leurs rivalités géopolitiques.
En Ukraine, les forces russes ont frappé jeudi des infrastructures militaires et civiles dans de très nombreuses régions, y compris près de la capitale Kiev, faisant au total au moins 8 morts et une trentaine de blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé une véritable terreur des missiles. Par ailleurs, l'Ukraine attendait toujours jeudi que de premiers navires chargés de céréales bloqués en raison de l'invasion russe puissent quitter ses côtes à destination des marchés mondiaux, conformément aux accords signés le 22 juillet à Istanbul. Le président français Emmanuel Macron a accueilli jeudi soir d'une longue poignée de main le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, invité pour un dîner de travail au palais de l'Élysée à Paris, malgré les protestations des défenseurs des droits de l'homme. Il a chaleureusement salué son hôte, dont c'est la première visite en Europe depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi il y a moins de 4 ans. Au moins 8 personnes sont mortes ici aux États-Unis à la suite de pluies torrentielles qui ont provoqué d'immenses inondations jeudi dans le Kentucky, a annoncé son gouverneur Andy Beshear, qui craint que le bilan augmente encore. Le nombre de disparus est inconnu et de fortes pluies sont attendues jusqu'à vendredi. Cela va s'avérer être les pires inondations de l'histoire récente, dévastatrices et mortelles, a-t-il averti. Avec le réchauffement de la planète provoqué par les activités humaines, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau, augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d'autres facteurs liés notamment à l'aménagement du territoire, favorisent les inondations. La Muniteco Nanit Talani.
La RDC met aux enchères les droits de licence pour 30 blocs de pétrole et de gaz, espérant profiter des prix élevés du pétrole. Selon Greenpeace, cette opération, dans la deuxième plus grande forêt du monde, pourrait libérer jusqu'à 5,8 milliards de tonnes de carbone, soit plus de 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2021. Kinshasa affirme qu'il va obliger les pétroliers à respecter des normes environnementales élevées pour minimiser les impacts. La Côte d'Ivoire vient de lancer le projet Pôle agro-industriel du Nord à Siné-Matiali, dans la région du Poro. Le projet mise sur la transformation des produits agricoles pour réduire la dépendance des importations alimentaires et à accroître les exportations des produits agricoles. L'objectif est de valoriser les potentialités agricoles, augmenter le taux de transformation industrielle des produits agricoles, améliorer le revenu des producteurs et créer des emplois pour les jeunes. Terminons par l'économie américaine qui s'est contractée pour un deuxième trimestre consécutif de 0,9% au cours de la période avril-juin, ce qui tire la sonnette d'alarme sur une éventuelle récession alors que le pays est aux prises avec une inflation galopante et des taux d'intérêt en hausse. Selon Janet Yellen, secrétaire au Trésor, la lutte contre la forte inflation aux États-Unis qui ralentit l'activité économique peut se faire sans peser sur l'emploi.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Ghana se projette déjà vers le Mondial 2022.
Oui, qualifié pour la Coupe du Monde, les Black Stars vont affronter la Suisse le 17 novembre en amical. L'annonce a été faite par la Fédération ghanéenne de football selon le site Africa Top Sport. Ce match va se disputer à 4 jours du coup d'envoi du Mondial au Qatar, prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Le Ghana est logé dans le groupe H avec l'Uruguay, le Portugal et la Corée du Sud.
Sur le marché des transferts, Jules Koundé va signer au FC Barcelone.
Le défenseur central international français du Séville FC va s'engager pour 5 ans avec le club catalan. Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le Barça et Séville ont trouvé un accord de principe. Le montant de l'opération s'élèverait à environ 50 millions d'euros et 10 millions de bonus, précise le journal. Le quotidien madrilène AS affirme plutôt que Séville et Barcelone ont bouclé le transfert du défenseur mercredi en attendant de l'officialiser. Jules Koundé se remet actuellement d'une intervention chirurgicale après une blessure au pubis. Il avait rejoint Séville en 2019 en provenance de Bordeaux. Avec le club andalou, il a remporté la Ligue Europa lors de la saison 2019-2020.
Le Bayern Munich pense plus à Harry Kane qu'à Cristiano Ronaldo.
C'est ce qu'explique le président du club bavarois. Dans un entretien à Bild, Oliver Kahn soutient que recruter la star portugaise ne correspondait pas à la philosophie actuelle du club et a confirmé l'intérêt du champion d'Allemagne pour l'attaquant de Tottenham. L'éventuelle arrivée d'Harry Kane pourrait compenser le départ de la machine à but Robert Lewandowski, parti à Barcelone. Cristiano Ronaldo, 37 ans, qui possède encore un an de contrat chez les Red Devils, n'est pas satisfait de sa situation et a indiqué à sa direction qu'il souhaitait être transféré vers un club qui va jouer la Ligue des Champions. Le club allemand s'est déjà renforcé sur le front de l'attaque en attirant l'ex-star de Liverpool, Sadio Mané.
Athlétisme, 4 anciens athlètes rejoignent la commission du CIO.
La légende américaine de l'athlétisme Alison Félix et Massouma Alizada, membres de l'équipe olympique des réfugiés, ont intégré la commission des athlètes du Comité international olympique. Il faut aussi ajouter le Britannique Alistair Brownlee et le Canadien Olisseyi Smith, nommé par le président du CIO, Thomas Barr. La commission des athlètes, présentée comme la voix des sportifs au sein du CIO et du mouvement olympique, est composée de 23 membres au maximum, dont 12 sont élus directement par les sportifs durant les Jeux et jusqu'à 11 nommés.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seguier. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, fin ce vendredi de la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet, les électeurs choisiront 165 députés parmi les 8 listes de coalition. Le pouvoir cherche à garder le contrôle de l'Assemblée nationale alors que l'opposition essaie de lui imposer une cohabitation pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Joint à Dakar par Abdourahmane Dia, l'analyste Amidou Anne déplore l'absence de débat sur les programmes des différentes coalitions.
Bon, disons que je ne suis pas surpris de la tournure prise par la campagne électorale. Je ne m'attendais pas à un débat programmatique entre les différentes listes concernées. On a plutôt eu tendance à un schéma, à constater un schéma classique entre la majorité qui vante le bilan économique du président de la République en ne mentionnant quasiment jamais son bilan en tant que majorité parlementaire, mais aussi les perspectives de réforme, de transformation du fonctionnement du Parlement. L'opposition divisée entre plusieurs chapelles, dont la plus représentative, s'est lancée une nouvelle fois dans des insultes, des invectives, des menaces, etc. Il faut juste saluer, en tout cas, le programme discutable à bien des égards, mais en tout cas proposé par la liste Art Sénégal dirigée par Thierno Le Fensal. Mais malheureusement, les élections s'enchaînent au Sénégal presque tous les 2 ou 3 ans, mais le personnel politique ne varie pas dans sa propension à verser dans le vulgaire et l'accessoire, au lieu de proposer de vraies pistes de solutions et de réformes à destination du peuple sénégalais.
Est-ce que pour vous, comme certains le pensent, c'est un test pour les élections, disons la présidentielle de 2024?
Absolument. De toute façon, dans l'équipe d'institutions que nous avons, qui est le modèle de 5e République, les élections intermédiaires ne servent pas grand-chose. Tout le monde est focalisé sur la seule élection qui est un peu la mère des batailles, qui est celle de la présidentielle. Les autres élections rythment un peu la vie politique, mais souvent ne concernent pas beaucoup de citoyens. Les élections législatives et municipales souvent ne font pas foule, il y a beaucoup d'abstention qu'on note. La grande élection est celle de la présidentielle et les débats ont commencé de toute façon depuis 3 ans au Sénégal sur la base de la question de la troisième candidature ou non de Macky Sall.
Et l'opposition nourrit un peu le rêve d'imposer une cohabitation au parti au pouvoir sans forcément vous demander de faire des pronostics. Vous pensez que c'est dans le domaine du possible?
Bon, il y a 2 choses. D'abord, moi, je n'y crois absolument pas. Le modèle d'élection législative qu'on a accordé quand même une large prime à la majorité parce que c'est un scrutin majoritaire du winner takes all. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait possibilité d'avoir une cohabitation. Et deuxièmement, je pense que même l'opposition n'y croit pas.
L'analyste politique Amidou Anne, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En visite dans la sous-région ouest-africaine, le conseiller en politique étrangère du département d'État américain a terminé son séjour au Sénégal par un face-à-face avec la presse, l'occasion pour évoquer la solidarité américaine suite à la guerre en Ukraine, la place de l'Afrique dans le monde et ses relations avec les États-Unis. Le compte-rendu de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
La première chose que le conseiller Derek Chollet a évoquée est l'effort américain pour appuyer l'Afrique et le monde face aux difficultés nées de la guerre en Ukraine.
En plus de cela, les États-Unis ont déjà fourni 2,8 milliards de dollars dans le monde en aide alimentaire depuis l'invasion russe de l'Ukraine et près d'un milliard de cette somme pour relever les défis en Afrique subsaharienne. À plus long terme, les États-Unis vont engager plus de 11 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour lutter contre les menaces à la sécurité alimentaire dans le monde entier. Et une grande partie de cette somme est réalisée par le biais du programme de l'USAID Nourrir le futur. Et 16 des 20 pays de ce programme sont en Afrique et le Sénégal fait partie des pays cibles.
Le conseiller en politique étrangère du département d'État a également évoqué la place de l'Afrique au sein des instances de décision mondiale. Tout en restant prudent, Derek Chollet a salué les efforts des dirigeants africains dans ce sens.
We did talk in general terms.
Nous avons parlé en termes généraux de l'importance de veiller à ce que l'Afrique ait une voix dans les principaux organismes et j'ai entendu le président Macky Sall parler de faire en sorte que l'Afrique soit plus représentée qu'elle ne l'est au G20. Nous n'avons donc pris aucun engagement dans ce sens, mais l'administration Biden est absolument déterminée à faire en sorte que les voix africaines soient entendues dans toutes les affaires internationales.
Le continent africain est un enjeu majeur pour les grandes puissances, mais sa relation avec les États-Unis est avant tout basée sur des questions prioritaires, d'après Derek Chollet.
Nous croyons que nos relations avec les pays d'Afrique sont absolument essentielles à notre intérêt commun parce que les défis ici sont les défis auxquels nous sommes confrontés aux États-Unis, comme les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire, la crise énergétique, la santé mondiale. Ce sont des défis pour l'Afrique, des défis pour les États-Unis et nous devons travailler ensemble pour les résoudre. Indépendamment de ce que d'autres pays peuvent faire avec l'Afrique, les États-Unis ont tout intérêt à renforcer leur partenariat ici sur le continent et c'est la raison pour laquelle le président Biden est déterminé à accueillir le sommet avec des dirigeants africains pour la première fois depuis 2014.
Ce sommet est prévu en décembre prochain. Pendant ce temps, la Chine étend sa fameuse route de soie. Elle construit un peu partout en Afrique des routes, des chemins de fer, des hôpitaux, des stades, des parlements et même le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. La Russie, de son côté, essaie d'accroître sa présence militaire et Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, vient juste de terminer une tournée aux allures d'opérations de charme dans plusieurs pays africains. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
La vidéo fait le tour de la toile en Mauritanie. Une dame fait irruption dans l'Assemblée nationale pendant que les députés votent une loi sur l'éducation. Son geste, qui vise à réclamer une meilleure place pour les langues nationales dans le système éducatif, a relancé la polémique autour des langues dans ce pays multiethnique. De Nouakchott, notre correspondant Mohamed Diop.
Ce projet de loi, c'est de notre avenir qu'il s'agit. Chers députés, sachez que tout le peuple vous écoute. Sachez que tous les jeunes...
La dame qui a fait irruption dans l'hémicycle s'appelle Salima Taba. Elle est membre du mouvement OLAN, Organisation pour l'officialisation des langues nationales. Elle a profité du vote de la loi d'orientation de l'éducation nationale pour réclamer l'officialisation et la généralisation des langues nationales. Le Poular, le Soninké et le Wolof... parlé par la communauté noire du pays dans l'enseignement au même titre que la langue arabe. Une revendication dont la députée Kadiata Malik Diallo explique l'origine.
Il y a toujours eu des revendications pour que le système éducatif mauritanien repose sur la langue arabe. Mais les composantes non arabes voient toujours à travers cela une volonté de donner un avantage à ceux qui sont arabes. Donc, revendiquer généralement que ce soit le français, la langue léguée par le colonisateur, que cette langue-là soit la langue d'enseignement pour assurer l'égalité des chances. Mais quelques années après l'indépendance, les locuteurs des autres langues nationales ont commencé à réclamer à ce que leur langue soit promue, qu'elle soit développée, enseignée et même officialisée comme l'arabe.
La députée rassure tout de même que la nouvelle loi ne va pas reléguer les langues nationales au second plan.
La loi actuelle, pour moi, constitue des avancées par rapport à l'ancienne situation, dans la mesure où les langues n'étaient pas dans le système éducatif. Actuellement, on permet aux enfants, tous dans le fondamental, d'étudier dans leur langue maternelle. C'est cela qui leur procure un avantage par rapport à l'ancienne situation. Et c'est cela qui va leur permettre de réduire d'ailleurs l'écart avec les autres enfants, les enfants arabes. C'est parce qu'ils vont apprendre dans leur langue, c'est ça qui va les aider à facilement acquérir des connaissances et à acquérir de nouvelles langues.
La nouvelle loi d'orientation de l'éducation nationale définit en tout cas les grands axes de l'éducation, tels que la mission de l'école, la carte scolaire, la politique des langues, la gouvernance et le système de l'éducation, entre autres. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Parlez de VOA Afrique à vos amis. VOA Afrique au Mali, c'est 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 FM Tombouctou.
Ce 28 juillet était un jour du dépassement de la Terre où l'humanité vit à crédit après avoir épuisé ce que les écosystèmes peuvent renouveler sur l'année. L'ONG WWF affirme qu'au total, la moitié de la biocapacité de la planète est aujourd'hui utilisée pour nourrir l'humanité avec des modèles très différents les uns des autres. Les détails avec Rosine Munezero.
La cause majeure du dépassement est un système agricole et alimentaire non soutenable. Selon Pierre Canet, directeur du plaidoyer et des campagnes de l'association WWF, les systèmes agricoles et alimentaires sont l'empreinte des hommes sur la planète.
Le jour de dépassement, ce 28 juillet, ça signifie que nous avons épuisé ce que les écosystèmes peuvent renouveler sur l'année. C'est-à-dire que nous sommes allés prendre plus de poissons que ce que les océans peuvent nous fournir, ou même encore émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les terres peuvent capter, que les forêts peuvent absorber. Nous sommes allés aussi utiliser plus de cultures que ce que les terres peuvent nous apporter en alimentation.
Selon l'ONG américaine Global Footprint Network, qui mesure la consommation de plus de 200 pays et compare ces mesures à la quantité de ressources naturelles de la Terre, l'analyse de ces données s'apparente à la tenue d'un budget. Mathis Wackernagel, président et fondateur du Global Footprint Network.
La Terre a beaucoup de stocks. Nous pouvons donc l'épuiser pendant un certain temps, mais nous ne pouvons pas la surconsommer pour toujours. C'est comme avec l'argent. Nous pouvons dépenser plus d'argent que nous n'en gagnons pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous soyons ruinés.
Pierre Canet affirme toutefois qu'il existe des solutions.
Il y a trois solutions. Un, changer de régime alimentaire pour aller vers moins de viande, potentiellement de la meilleure viande, plus de protéines végétales. Deuxième point, stopper la déforestation et nous assurer que l'Union européenne ait un règlement pour éviter que nous ayons dans nos rayons des produits liés à la déforestation. Et troisième point, aller vers d'autres modes et pratiques agricoles pour passer d'une agriculture conventionnelle intensive qui pollue vers des pratiques agroécologiques qui travaillent avec la terre, travaillent avec la nature pour fournir l'alimentation dont nous avons besoin.
Selon l'ONG, une planète en bonne santé est une humanité en bonne santé.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VO Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnou et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Maybe anytime you're lonely, can I be the one you call?